parabole du jour avec le Père Willem.
Comment vivre dans un monde sans Dieu ? Thérèse Lisieux et l'épreuve de la foi. Voici tout d'abord un témoignage de Thérèse de Lisieux. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leur pensée en niant l'existence du ciel, du beau ciel où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel si douce pour moi ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines. Elle devait ne s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu, et cette heure n'est pas encore venue. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, en prenant la voix des pécheurs, me disent en se moquant de moi, « Oh, tu rêves, la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ses merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Alors avance, avance, et réjouis-toi de la mort. Non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Ainsi s'exprimait Thérèse de Lisieux, qui a vécu de 1873 à 1897. Souvent, on entend dire que dans l'ensemble, les gens sont bien moins religieux qu'ils ne l'étaient. C'est un point de vue de certains jeunes. Ils essaient d'expliquer ainsi à quel point leur est étrangère la vision du monde, disons, du prophète Jérémie ou d'un saint Augustin. Nous leur disons alors que de nombreux contemporains de Jérémie et d'Augustin trouvaient également leur vision du monde étrange, et que les gens n'ont jamais été tellement religieux. Ces étudiants croient que le monde qui est le leur est dénué de la présence de Dieu, d'une manière qui rend l'incroyance contemporaine différente de l'incroyance dénoncée par les auteurs bibliques. L'insensé a dit dans son cœur « plus de Dieu », nous dit un passage de l'Écriture. Malgré la preuve de l'ancienneté de l'incroyance, les étudiants ont raison. Il y a bien quelque chose de différent dans l'incroyance d'aujourd'hui. Il est certain qu'à d'autres époques, des gens se sont sentis privés de Dieu, mais aujourd'hui, c'est la question même de Dieu, laquelle semblait jadis si omniprésente qu'elle en était inévitable, qui dans la plupart des cas est simplement ignorée. L'athéisme ne revêt plus la forme d'un rejet actif personnel de Dieu, d'une protestation contre l'idée même de Dieu. Au contraire, il est devenu par défaut le mode d'être blasé d'une civilisation qui a découvert qu'elle s'en sort très bien sans Dieu. On pourrait dire qu'il y a un athéisme qui se fond à la trame même de la vie contemporaine. Même ceux qui croient en Dieu ou au divin ou à une puissance supérieure sont, pour la plupart, en mesure de vivre le quotidien sans grand lien avec cette croyance. Alors que la science n'a de cesse de décrire les mécanismes de l'univers, et tandis que la technologie nous permet de plus en plus d'utiliser ces mécanismes, la place de Dieu semble diminuer en proportion. Le temps et la technologie avancent et les jours de Dieu sont comptés. S'il faut mettre un mot sur ce phénomène, disons que nous percevons notre monde comme étant désenchanté. D'ailleurs, le sociologue Max Weber a utilisé ce terme pour décrire la façon dont les modernes en sont venus de plus en plus pour décrire la façon de voir le monde qui est le leur comme étant soumis à leur propre maîtrise rationnelle et de moins en moins comme soumis à la providence de Dieu ou des dieux. La supposition commune de la civilisation occidentale, du moins depuis la Renaissance, est que le monde est une réalité à maîtriser et à régir grâce à l'effort humain. Nous ne sommes pas sans recours devant les puissances qui nous accablent. Tout au contraire, nous pouvons nous saisir du matériau brut de la nature et modeler un monde viable à notre usage. Cette assurance nous a valu de nombreux bénéfices matériels, mais elle a aussi apporté son lot de problèmes, notre destruction de l'environnement n'étant pas l'un des moindres. D'ailleurs, cependant, cette conception des humains comme maîtres du monde n'est pas simplement le projet de technocrates qui veulent bétonner le paradis et veulent y installer un parking. C'est tout autant l'optique de ceux qui souhaitent protéger l'environnement, faire effort pour sauver des espèces menacées ou maintenir la biodiversité ou gérer nos ressources naturelles sont, ironie du sort, des activités qui relèvent de notre maîtrise de la nature qui jadis nous dominait. Sans doute est-ce une moindre maîtrise, mais c'est toujours de la maîtrise. Bien sûr, la lutte pour la domination humaine de la nature est aussi ancienne que le livre de la Genèse où Dieu dit à Adam et Ève « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre ». Mais il y a une différence, car l'auteur de la Genèse fait clairement le portrait des êtres humains en tant qu'ils agissent sur ordre de Dieu, en tant qu'ils sont ses agents. La domination qu'ils exercent sur la terre n'est que le prolongement de l'empire exercé par Dieu en tant que créateur du monde. Alors leur devoir est un devoir d'une portée divine et ils disent au final rendre des comptes sur la façon bonne ou mauvaise dont ils auront accompli leur tâche. Tout est différent aujourd'hui. Le contrôle que nous exerçons sur le monde ne sert plus les desseins de Dieu, mais davantage les nôtres. Nous ne nous contentons plus de nous occuper du monde comme s'il s'agissait du jardin d'un autre. Nous avons pris possession du jardin lui-même. En tant que tel, le monde n'est porteur d'aucun sens. Il ne signifie rien au-delà du sens que nous lui assignons. Il n'est porteur d'aucun projet qui doive être mené à terme. Le sentiment d'être en devoir de faire que le monde ait un sens, comme le dit Weber, hante nos vies comme le fantôme de croyances religieuses défuntes.